Chers amis, bonjour. Et oui, nous sommes toujours dans le Tarn, à Mazamet, un peu plus de 10 000 habitants dans cette ville située dans le sud du département et au pied de la Montagne Noire, extrémité sud-ouest du Massif Central et dans le parc naturel régional du Haut-Languedoc. Autrement dit, bel emplacement qui est la carte maîtresse de la ville, ce qui rend déjà la vie plus belle aux Mazamétaines et Mazamétains et qui permet d'accueillir en nombre les férus de tourisme vert et d'activités pleine nature, en sachant qu'en plus, on est à une heure des plages de la Méditerranée. Bien sûr, je pourrais vous parler de la randonnée, du VTT, de l'équitation, du golf, de la baignade en été, etc. Mais il y a à Mazamet et alentour, en plus de toutes ces activités, une particularité, quelque chose d'unique dans la région, c'est une longue passerelle suspendue. Il s'agit d'une passerelle dite himalayenne, un chemin aérien de 140 mètres de long qui traverse les gorges de la rivière Larnette, et c'est spectaculaire. À 70 mètres de haut environ, balade vertigineuse, mais en toute sécurité, soyez rassurés, et vue remarquable sur la vallée. Cette passerelle qui relie donc Mazamet au village perché d'Opoul, un village médiéval qui est sillonné de rues anciennes bordées d'édifices du Moyen-Âge. Et l'accès à cette passerelle himalayenne de Mazamet est gratuit. Mazamet dans le Tarn, prêt à jouer aux 1000 euros aujourd'hui avec Pascal Césari et Philippe Grandcola. Bonjour Pascal.
Bonjour.
En tant que Mazamétaine, Pascal, vous avez déjà emprunté cette passerelle himalayenne?
Pas encore.
Non.
J'attends ma famille de Lorraine pour leur faire découvrir la passerelle.
Ah, il faut attendre que les Lorrains arrivent.
Bien sûr.
Ça sera une occasion de visite, une idée de sortie pour, oui. Pour cette famille.
Moi, je suis Lorrain, donc je peux y aller.
Ah oui, Philippe, donc... Philippe qui vient de Toulouse. Philippe Grandcola. Philippe, vous l'avez emprunté cette passerelle?
Pas encore.
Mais bon, vous avez une excuse, vous habitez Toulouse.
Voilà.
Mais il faut venir à Mazamet pour emprunter la passerelle et visiter ce village d'Opoul. Mais Pascal, vous connaissez le village médiéval?
Oui, oui.
Ah bon? D'accord, vous en parlez avec des mots qui nous donnent envie d'aller le voir. On sent la passion.
Tout à fait.
On sent cette adoration des vieilles pierres. Que faites-vous, Pascal, dans la vie sinon?
Je vous écoute.
Que ça c'est une belle déclaration, j'en suis tout à fait ému et j'en rougis, mais sinon vous avez des loisirs, vous avez des activités?
Oui, lecture, cinéma, oui. Musique, et nous sommes ici à l'espace Apollo.
Espace Apollo.
Il y a une très bonne programmation musicale grâce à Robin Berthaud.
C'est bien.
Et il y a aussi très bon choix de films grand public ou films plus discrets, d'auteurs, grâce à Damien Catala. Alors, je peux vous parler des films qui m'ont plu. Dernièrement, Joël, une enfance en Patagonie.
Oui.
Et puis, le film de Michael Hirst, Ce sentiment de l'été. Maintenant, je passe la parole à mon coéquipier, si vous permettez.
Merci. Eh bien, vous avez parlé magnifiquement du cinéma de cette salle Apollo, tout comme vous aviez parlé précédemment du village d'Opoul. Pascal, vous avez eu raison de parler de cette programmation culturelle de Mazamet. Philippe, vous venez de Toulouse et vous êtes cinéphile.
Voilà, tout à fait. Et je voudrais compléter par rapport au film que Pascal a dit. Je ne sais pas s'il est programmé à l'Apollo prochainement.
Sûrement.
Le très beau dessin animé Les Hirondelles de Kaboul.
Ah, bien sûr,
magnifique.
De Zabou Breitman, voilà. Bien entendu. Ouais. Philippe, vous aimez le cinéma, mais vous l'avez vécu aussi de l'intérieur.
Voilà, tout à fait. Comme j'aime beaucoup aller au cinéma, j'aime bien voir aussi ce qui se passe derrière la caméra. Et pour ça, j'ai eu l'occasion, à Toulouse, qui est une ville où il y a pas mal de tournages,
oui,
de faire quelques figurations. Et c'est très intéressant parce qu'on voit ce qui se passe derrière la caméra.
Pascal Césari, Philippe Grandcola, les questions du jeu, vous les avez tirées au sort. Je vous les pose avec grand plaisir, comme c'est le cas tous les jours, du lundi au vendredi, et quand vous le souhaitez, sur franceinter.fr et l'appli France Inter. Cette première question bleue a été rédigée par Antoine Pornin, qui habite Saint-Roch, en Indre-et-Loire. Qu'est-ce qui est froid, se mange et commence par un V et finit mal? Devinette sympathique rédigée par Antoine, qui est un jeune auditeur, il a 14 ans. Qu'est-ce qui est froid, se mange, commence par un V et finit mal?
Par un V?
Oui.
C'est un dessert?
Non, c'est un. En fait, il faut penser à une locution, mais ça peut être oui, c'est dans l'idée.
Ah, qui se mange la vengeance.
Imagée.
La vengeance.
Dans cette idée-là, ah, imagée, en effet, ça peut être un plat. Et oui, c'est la vengeance. On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. pour dire que les représailles les plus réjouissantes s'exécutent un certain temps après l'affront. Selon le proverbe, la locution, disons, la vengeance est un plat qui se mange froid. C'est le mot vengeance qu'il fallait trouver à partir de cette devinette d'Antoine. Autre question bleue, de Châtillon dans les Hauts-de-Seine, c'est Bernard Moureau qui nous l'a envoyé sur franceinter.fr. Quel est ce groupe pop rock anglais qui a connu la célébrité avec le titre Nights in White Satin? Yes.
Deep Purple.
Pas Deep Purple.
Non, c'était les Moody Blues.
Les Moody Blues en 1967. 66. Merci. Vous dites 66?
Pardon?
Vous dites 66? Vous avez dit 66, 67? Oui, 66, 67. Entre 66 et 67, à peu près, disons, fin 66, début 67. Allez. Question bleue. Question de Suzanne Muliva à Simandre, dans le Rhône. Aux Pays-Bas, quel nom est donné notamment aux terres basses des côtes conquises sur la mer, asséchées, protégées par des digues, le plus souvent donc sous le niveau de la mer?
Alors cela s'appelle des polders.
Ça s'appelle des polders aux Pays-Bas. Une grande partie du pays est constituée de polders. Question blanche, question envoyée par voie postale. Je le rappelle, j'en profite, vous pouvez nous écrire au stylo, à la plume, sur papier libre, à France Inter, le jeu des 1000 euros, 116 avenue du président Kennedy, 75 220 Paris Sélex 16, comme l'a fait Myriam Lebec de Malakoff dans les Hauts-de-Seine. Attention, question longue. C'est un poisson dont le corps est très allongé, de couleur grise, gris clair, disons. Il fait penser à une anguille de mer. Il chasse la nuit, se réfugie le jour dans les rochers. Il mesure en général entre 1 et 2 mètres. 1 et 2 mètres, attention. Sa croissance est rapide, il peut atteindre 30 kilos. Et on le trouve, on le pêche, notamment au Guilvinec, à Noirmoutier et à Lorient, disons, ces ports de débarquement, si on peut dire. Quel est ce poisson ?
La murène ?
Ce n'est pas la murène.
Le congre ?
Le congre, il y a beaucoup d'arêtes dans le congre. Il vit dans les failles rocheuses et ce n'est pas la murène, c'est le congre. Même si la murène aussi se cache dans les rochers. Question blanche, rédigée par Jean-Pierre Vincendeau de Chaland en Vendée. En mythologie grecque, qui était la nymphe des mers ?
Néré,
non. Elle a retenu auprès d'elle Ulysse.
Nausicaa.
Par amour, pas Nausicaa.
Calypso.
Calypso, excellente réponse. Bravo. C'est aussi comme ça qu'on peut jouer, on donne des réponses, on procède aussi d'une certaine façon par élimination. Question rouge de Nicolas Pellot à Damary-les-Lys en Seine-et-Marne. Quel élément de construction typique trouve-t-on au nord de la Loire et qui est produit à Trélazé ? Mais l'exploitation est terminée, en fait, précision que j'apporte, si je puis me permettre, en complément de la question de Nicolas Pellot. Quel élément de construction typique trouvé au nord de la Loire est une spécialité traditionnelle, historique, disons, de Trélazé ?
Le tuffeau ?
Ce n'est pas le tuffeau qu'on trouve bien aussi en Anjou, oui, mais...
L'ardoise ?
C'est l'ardoise de Trélazé, spécialité historique, donc, puisque le filon est épuisé. Il existe à Trélazé, dans le Maine-et-Loire, donc en Anjou, pas très loin d'Angers, un musée de l'ardoise. Pascal Césari, Philippe Grandcola, vous avez répondu à toutes les questions, ce qui veut dire, je le traduis concrètement, ce qui veut dire que vous pouvez tenter directement le... Que décidez-vous ?
Banco.
Le jeu des 1000 euros sur France Inter.
Pascal et Philippe, j'ai une question à vous poser de la part de Lucille Chamoiseau à Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine. À quel peintre doit-on le tableau La classe de danse, daté de 1870 ? On lui doit aussi l'orchestre de l'opéra, 10 ans auparavant. À quel peintre doit-on le tableau La classe de danse, 1870, et 10 ans auparavant, 1860, l'orchestre de l'opéra ? Une exposition lui est consacrée en ce moment à Paris jusqu'au 19 janvier 2020 au musée d'Orsay. la classe de danse. L'orchestre de l'opéra, deux tableaux.
Alors nous avons Degas, Edgar Degas.
Deux tableaux d'Edgar Degas. Il n'y a pas beaucoup de scènes de danse. Pascal et Philippe, c'est très joli. 500 euros si vous vous arrêtez maintenant et peut-être plus avec le...
Bon, écoutez, la chance nous sourit jusqu'à maintenant, donc on va tenter le super.
Vous êtes d'accord tous les deux ?
Bien sûr.
Super banco. 10 Meunier de Combes-la-Ville en Seine-et-Marne nous a envoyé sur franceinter.fr cette question que nous avons classée super banco, pour laquelle vous avez une minute de réflexion, mais ne pouvez nous donner qu'une réponse. Construit en 1860 à Saint-Pétersbourg, ce théâtre célèbre dans le monde entier a été renommé Kirov en 1935 en hommage à un révolutionnaire bolchevique assassiné l'année précédente. Mais en 1992, après quelques années après la chute de l'URSS, ce théâtre de Saint-Pétersbourg a retrouvé son nom d'origine, lequel ?
Le Bolchoï, c'est à Moscou. Eh ben, on peut tenter le théâtre de Leningrad.
Oui, non, ça porte un nom. Non, il porte un nom. Et vous demandez un nom bien précis.
Il faut un nom.
Musée.
Oui, bien sûr, bien sûr. Oui.
Si on n'a rien, on tente le Bolchoï. Allez, si on n'a rien, on tente.
On a encore un peu de temps pour réfléchir. Donc,
Renommé Kirov en 35, il a retrouvé son nom d'origine en 1992, ce théâtre de Saint-Pétersbourg. Quel est ce nom ?
Bien, on n'a pas vraiment trop d'idées, on va tenter le Bolchoï.
Ah, c'est le théâtre Mariinsky.
Ou théâtre Marie.
Le théâtre Mariinsky à Saint-Pétersbourg. Applaudissements pour nos candidats. Bien sûr. Et pour Guy Meunier qui nous a envoyé cette question et qui a gagné 45 euros, Pascal Césari et Philippe Grandcola, le casque audio France Inter et le livre des chroniques de l'espace de Jean-Pierre Luminet. Bonne journée et pour le spécial jeune, à demain, si vous le voulez bien.
La route des enregistrements du jeu, la semaine prochaine dans la Somme, lundi 30 à Villers-Bretonneux, mardi à Rubempré dans l'Oise, mercredi à Compiègne, jeudi 3 à Beauvais et puis dans le Val d'Oise, vendredi 4 à Auvers-sur-Oise et samedi 5 octobre à Pontoise.